Chapitre 13. La vraie maîtresse du roi de Navarre, de l'étonnement qu'éprouva Chico d'être si populaire dans la ville de Nérac. Le repas fut des plus joyeux. Henri semblait n'avoir plus rien dans la pensée ni sur le cœur, et quand il était dans ses dispositions d'esprit, c'était un excellent convive que le Béarnais. Quant à Chico, il dissimulait de son mieux ce commencement d'inquiétude qu'il avait pris à l'apparition de l'ambassadeur d'Espagne, qu'il avait suivi dans la cour, qui s'était augmenté à la distribution de l'or aux mendiants et qui ne l'avait plus quitté depuis. Henri avait voulu que son compère Chico soupât seul à seul avec lui. À la cour du roi Henri, il s'était toujours senti un grand faible pour Chico, un de ces faibles, comme en ont les gens d'esprit pour les gens d'esprit. Et Chico, de son côté, sauf les ambassades d'Espagne, les mendiants à mot d'ordre et les pièces d'or rognées, Chico avait une grande sympathie pour le roi de Navarre. Chico, voyant le roi changer de vin, et se comporter en tout point comme un bon convive, Chico résolut de se ménager un peu, lui, de façon à ne rien laisser passer de ce que la liberté du repas et la chaleur des vins inspiraient de saillie au Béarnais. Henri but sec, et il avait une façon d'entraîner ses convives qui ne permettait guère à Chico de rester en arrière de plus d'un verre de vin sur trois. Mais c'était, on le sait, une tête de fer que la tête de M. Chico. Quant à Henri de Navarre, tous ses vins étaient vins de pays, disait-il, et il buvait comme petit lait. Tout cela était assaisonné de force compliments qu'échangeaient entre eux les deux convives. « Que je vous porte envie, dit Chico au roi, et que votre cour est aimable et votre existence fleurit, sire. Que de bons visages je vois dans cette bonne maison, et que de richesses dans ce beau pays de Gascogne. Si ma femme était ici, mon cher Chico, je ne te dirais pas ce que je vais te dire, mais en son absence, je puis t'avouer que la plus belle partie de ma vie est celle que tu ne vois pas. Ah, si, on en dit en effet de belles sur votre majesté. » Henri se renversa dans son fauteuil et se caressa la barbe en riant. « Oui, oui, n'est-ce pas, dit-il, on prétend que je règne beaucoup plus sur mes sujettes que sur mes sujets. »« C'est la vérité, sire, et pourtant cela m'étonne. »« En quoi, mon compère ?»« En ce que, sire, vous avez beaucoup de cet esprit remuant qui fait les grands rois. »« Ah, Chico, tu te trompes, dit Henri, je suis encore plus paresseux que remuant, et la preuve en est toute ma vie. »« Si j'ai un amour à prendre, c'est toujours le plus rapproché de moi. » Si c'est du vin que je choisis, c'est toujours du vin de la bouteille la plus proche. À ta santé, Chico. Sire, vous me faites honneur, répondit Chico, en vidant son verre jusqu'à la dernière goutte. Car le roi le regardait de cet œil fin qui semblait pénétrer au plus profond de sa pensée. Aussi, continua le roi en levant les yeux au ciel, que de querelles dans mon ménage, compère. Oui, je comprends, toutes les filles d'honneur de la reine vous adorent, sire. Elles sont mes voisines, Chico. Eh, sire, il résulte de cet axiome que si vous habitiez Saint-Denis au lieu d'habiter Nérac, le roi pourrait bien ne pas vivre aussi tranquille qu'il le fait. Henri s'assombrit. Le roi, que me dites-vous là, Chico, reprit Henri de Navarre. Le roi, est-ce que vous vous figurez que je suis un guise, moi? Je désire Cahors, c'est vrai, mais parce que Cahors est à ma porte. Toujours mon système, Chico. J'ai de l'ambition, mais assis, une fois levé, je ne me sens plus désireux de rien. Ventre de biche, sire, répondit Chico, cette ambition des choses à la portée de la main ressemble fort à celle de César Borgia, qui cueillait un royaume, ville à ville, disant que l'Italie était un artichaut qu'il fallait manger feuille à feuille. Ce César Borgia n'était pas un si mauvais politique, ce me semble, compère, dit Henri. Non, mais c'était un fort dangereux voisin et un fort méchant frère. Ah ça, mais vous me compareriez, vous, à un fils de pape, moi, chef de Huguenots? Un instant, monsieur l'ambassadeur. Si, je ne vous compare à personne. Pour quelle raison? Pour la raison que je crois qu'il se trompera, celui qui vous comparera à un autre qu'à vous-même. Vous êtes ambitieux, sire. Quelle bizarrerie, fit le Béarnais, voilà un homme qui, à toute force, veut me forcer à désirer quelque chose. Dieu m'en garde, sire, tout au contraire, je désire de tout mon cœur que votre majesté ne désire rien. Tenez, Chicot, dit le roi, rien ne vous rappelle à Paris, n'est-ce pas? Rien, sire. Vous allez donc passer quelques jours avec moi. Si votre majesté me fait l'honneur de souhaiter m'accompagner, je ne demande pas mieux que de lui donner 8 jours. 8 jours, eh bien, soit, compère. Dans 8 jours, vous me connaîtrez comme un frère. Buvons, Chicot. Sire, je n'ai plus soif, dit Chicot, qui commençait à renoncer à la prétention qu'il avait eue d'abord de griser le roi. Alors je vous quitte, compère, dit Henri. Un homme ne doit plus rester à table quand il n'y fait rien. Buvons, vous dis-je. Mais pourquoi faire? Pour mieux dormir. Ce petit vin de pays donne un sommeil plein de douceur. Aimez-vous la chasse, Chicot? Pas beaucoup, sire, et vous? J'en suis passionné, moi, depuis mon séjour à la cour du roi Charles IX. Pourquoi votre majesté me faisait-elle l'honneur de s'informer si j'aimais la chasse? Demanda Chicot. Parce que je chasse demain, et compte vous emmener avec moi. Sire, ce sera beaucoup d'honneur, mais... Oh, compère, soyez tranquille, cette chasse est faite pour réjouir les yeux et le cœur de tout homme d'épée. Je suis bon chasseur, Chicot, et je tiens à ce que vous me voyiez dans mes avantages, que diable. Vous voulez me connaître, dites-vous. Ventre de biche, sire, c'est un de mes plus grands souhaits, je l'avoue. Eh bien, c'est un côté sous lequel vous ne m'avez pas encore étudié. Sire, je ferai tout ce qu'il plaira au roi. Bah, c'est chose convenue. Ah, voici un page, on nous dérange. Quelque affaire importante, sire. Une affaire à moi, lorsque je suis à table. Il est étonnant, ce cher Chicot, pour se croire toujours à la cour de France. Chicot, mon ami, sache une chose, c'est qu'à Nérac, eh bien, sire, quand on a bien soupé, l'on se couche. Mais ce page, eh bien, ce page ne peut-il annoncer autre chose que des affaires? Ah, je comprends, sire, et je vais me coucher. Chicot se leva, le roi en fit autant et prit le bras de son hôte. Cette hâte à le renvoyer parut suspecte à Chicot, à qui toute chose d'ailleurs, depuis l'annonce de l'ambassadeur d'Espagne, commençait à paraître suspecte. Il résolut donc de ne sortir du cabinet que le plus tard qu'il pourrait. « Oh !» fit-il en chancelant, « c'est étonnant, sire !» Le Béarnais sourit. « Qu'y a-t-il d'étonnant, compère ?» Ventre de biche, la tête me tourne. Tant que j'étais assis, cela allait à merveille, mais à cette heure que je suis levé, bon. Bah, dit Henri, nous n'avons fait que goûter le vin. Bon, goûter, sire, vous appelez cela goûter? Bravo, sire. Ah, vous êtes un rude buveur, et je vous rends hommage comme à mon seigneur suzerain. Bon, vous appelez cela goûter, vous? Chicot, mon ami, dit le Béarnais, essayant de s'assurer par un de ses regards subtils qui n'appartenait qu'à lui, si Chicot était véritablement ivre ou faisait semblant de l'être. « Chicot, mon ami, je crois que ce que tu as de mieux à faire maintenant, c'est d'aller te coucher. »« Oui, sire, bonsoir, sire. »« Bonsoir, Chicot, et à demain. »« Oui, sire, à demain. »« Et votre majesté a raison, ce que Chicot a de mieux à faire, c'est de se coucher. »« Bonsoir, sire. » Et Chicot se coucha sur le plancher. En voyant cette résolution de son convive, Henri jeta un regard à la porte. Si rapide qu'eût été ce regard, Chicot le saisit au passage. Henri s'approcha de Chicot. « Ah, tu es tellement ivre, mon pauvre Chicot, que tu ne t'aperçois pas d'une chose. Laquelle? C'est que tu prends les nattes de mon cabinet pour ton lit. » Oh, Chicot est un homme de guerre, Chicot ne regarde pas à si peu. Alors tu ne t'aperçois pas de 2 choses? Ah, et quelle est la seconde? C'est que j'attends quelqu'un. Pour souper, soit, soupons. Et Chicot fit un effort infructueux pour se soulever. Ventre Saint-Gris, s'écria Henri, comme tu as l'ivresse subite, compère. Va-t'en, mordieu, tu vois bien qu'elle s'impatiente. « Elle, fit Chicot, qui, elle ?»« Eh, mordieu, la femme que j'attends et qui fait faction à la porte, là !»« Une femme, et que ne disais-tu cela, Henriquet ?»« Oh, pardon, fit Chicot, je croyais parler au roi de France. »« Il m'a gâté, voyez-vous, ce bon Henriquet. »« Que ne disiez-vous cela, sire ? Je m'en vais. »« À la bonne heure, tu es un vrai gentilhomme, Chicot. Là, bien, lève-toi et va-t'en, car j'ai une bonne nuit à passer, entends-tu, toute une nuit. » Chicot se leva et gagna la porte en trébuchant. « Adieu, cher ami, adieu, dors bien. Et vous, sire ? Chut ! Oh, oui, chut !» Et il ouvrit la porte. « Tu vas trouver le page dans la galerie et il t'indiquera ta chambre. Va. »« Merci, sire. » Et Chicot sortit, après avoir salué aussi bas que peut le faire un homme ivre. Mais aussitôt la porte refermée derrière lui, toute trace disparut. Il fit trois pas en avant, et revenant tout à coup, il colla son œil à la large serrure. Henri était déjà occupé d'ouvrir la porte à l'inconnu que Chicot, curieux comme un ambassadeur, voulait connaître à toute force. Au lieu d'une femme, ce fut un homme qui entra. Et lorsque cet homme eut ôté son chapeau, Chicot reconnut la noble et sévère figure de Duplessis Mornay, le conseiller rigide et vigilant de Henri de Navarre. « Un diable, fit Chicot, voilà qui va surprendre notre amoureux et le gêner, certes, plus que je ne le gênais moi-même. » Mais le visage de Henri à cette apparition n'exprima que la joie. Il serra les mains du nouveau venu, repoussa la table avec dédain et fit asseoir Mornay auprès de lui avec toute l'ardeur qu'eût mise un amant à s'approcher de sa maîtresse. Il semblait avide d'entendre les premiers mots qu'allait prononcer le conseiller. Mais tout à coup, avant que Mornay eût parlé, il se leva et, lui faisant signe d'attendre, il alla à la porte et poussa les verrous avec une circonspection qui donna beaucoup à penser à Chicot. Puis il attacha son regard ardent sur des cartes, des plans et des lettres que le ministre fit passer successivement sous ses yeux. Le roi alluma d'autres bougies et se mit à écrire et à pointer les cartes de géographie. « Oh, fit Chicot, voilà la bonne nuit du roi de Navarre. Ventre de biche, si elle ressemble toute à celle-là, Henri de Valois pourra bien en passer quelques-unes de mauvaises. » En ce moment, il entendit marcher derrière lui. C'était le page qui gardait la galerie et l'attendait, par ordre du roi. Dans la crainte d'être surpris s'il demeurait plus longtemps aux écoutes, Chicot redressa sa grande taille et demanda à sa chambre à l'enfant. D'ailleurs, il n'y avait plus rien à apprendre. L'apparition de Duplessis lui avait tout dit. « Venez avec moi, s'il vous plaît, monsieur, » dit d'Aubiac. « Je suis chargé de vous conduire à votre appartement. » Et il conduisit Chicot au second étage où son logis avait été préparé. Pour Chicot, plus de doute, il connaissait la moitié des lettres composant cette énigme qu'on appelait le roi de Navarre. Aussi, au lieu de s'endormir, il s'assit, sombre et pensif sur son lit, tandis que la lune, descendant aux angles aigus du toit, versait, comme du haut d'une aiguillère d'argent, sa lumière azurée sur le fleuve et sur les prairies. « Allons, allons, fit Chicot assombri, Henri est un vrai roi, Henri conspire. Tout ce palais, son parc, la ville qui l'entoure, la province qui entoure la ville, tout est un foyer de conspiration. Toutes les femmes font l'amour, mais l'amour politique. Tous les hommes se forgent l'espoir d'un avenir. Henri est astucieux. Son intelligence touche au génie. Il a des intelligences avec l'Espagne, le pays des fourberies. Qui sait si sa réponse si noble à l'ambassadeur n'est pas une contrepartie de ce qu'il pense, et si même il n'a pas averti cet ambassadeur par un clignement d'yeux ou quelque autre convention tacite que, moi, caché, je n'ai pu sentir. Henri entretient des espions, il les solde ou les fait solder par quelque agent. Ces mendiants n'étaient ni plus ni moins que des gentilshommes déguisés. Leurs pièces d'or, si artistement découpées, sont des gages de reconnaissance, des mots d'ordre matériels et palpables. Henri feint d'être amoureux et fou, et tandis qu'on le croit occupé à faire l'amour, il passe ses nuits à travailler avec Mornay, qui ne dort jamais et qui ne connaît pas l'amour. Ah, voilà ce que j'avais à voir, je l'ai vu. La reine Marguerite a des amants, le roi le sait, il les connaît, il les tolère, parce qu'il a encore besoin d'eux, ou d'elle, peut-être de tous à la fois. N'étant pas homme de guerre, il faut bien qu'il entretienne des capitaines, et n'ayant pas beaucoup d'argent, force lui est de leur laisser choisir la monnaie qui leur convient le mieux. Henri de Valois me disait qu'il ne dormait pas, ventre de biche, il fait bien de ne pas dormir. Heureusement encore que ce perfide Henri est un bon gentilhomme, auquel Dieu, en donnant le génie de l'intrigue, a oublié de donner la vigueur d'initiative. Henri, dit-on, a peur du bruit des mousquets, et quand tout jeune il a été conduit aux armées, on s'accorde à raconter qu'il ne pouvait rester plus d'un quart d'heure en selle. Heureusement, répéta Chicot, car dans les temps où nous vivons, si avec l'intrigue un pareil homme avait le bras, cet homme serait le roi du monde. Il y a bien guise, celui-là possède les deux valeurs, il a le bras de l'intrigue, lui, mais il a le désavantage d'être connu pour brave et habile, tandis que du Béarnais, nul ne se défie. Moi seul, je l'ai deviné. Et Chicot se frotta les mains. « Eh bien, continua-t-il, l'ayant deviné, je n'ai plus rien à faire ici, moi. Donc, tandis qu'il travaille ou dort, je vais tranquillement et doucement sortir de la ville. » Il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs, je crois, qui puissent se vanter d'avoir en une journée accompli leur mission tout entière. Moi, je l'ai fait. Donc, je sortirai de Nérac, et une fois hors de Nérac, je galoperai jusqu'en France. » Il dit et commença de rechausser ses éperons qu'il avait détachés au moment de se présenter devant le roi, et commença à faire son petit paquet de voyage. Il le simplifia du mieux qu'il lui fut possible, ayant pour principe que l'on va plus vite toutes les fois que l'on pèse moins. Assurément, son épée était la plus lourde portion du bagage qu'il emportait. « Voyons, que me faut-il de temps ?» se demandait Chicot en lui-même, tout en nouant son paquet, « pour faire parvenir au roi la nouvelle de ce que j'ai vu et par conséquent de ce que je crains. » Deux jours pour arriver jusqu'à une ville, de laquelle un bon gouverneur fasse partir des courriers, ventre à terre, que cette ville, par exemple, soit Cahors, Cahors dont le roi de Navarre parle tant et qu'il occupe, à si juste titre, une fois là, je pourrais me reposer, car enfin, les forces de l'homme n'ont qu'une certaine mesure. Je me reposerai donc à Cahors, et les chevaux courront pour moi. » Allons, mon ami Chicot, des jambes, de la légèreté, du sang-froid. Tu croyais avoir accompli toute ta mission, niais, tu n'en es qu'à la moitié, et encore. Cela dit, Chicot éteignit sa lumière, ouvrit le plus doucement qu'il put sa porte et se mit à sortir à tâtons. C'était un habile stratégiste que Chicot. Il avait, en suivant d'Aubiac, jeté un regard à droite, un regard à gauche, un regard devant, un regard derrière, et reconnu toutes les localités. Une antichambre, un corridor, un escalier, puis au bas de cet escalier, la cour. Mais Chicot n'eut pas tôt fait quatre pas dans l'antichambre qu'il se heurta à quelque chose qui se dressa aussitôt. Ce quelque chose était un page couché sur la natte en dehors de la chambre et qui, réveillé, se mit à dire « Eh, bonsoir, monsieur Chicot, bonsoir !» Chicot reconnut d'Aubiac. « Eh, bonsoir, monsieur d'Aubiac, dit-il, mais écartez-vous un peu, s'il vous plaît, j'ai envie de me promener. »« Ah, mais c'est qu'il est défendu de se promener la nuit dans le château, monsieur Chicot. » « Pourquoi cela, s'il vous plaît, monsieur d'Aubiac ?»« Parce que le roi redoute les voleurs et la reine les galants. »« Diable ! Or, il n'y a que des voleurs et des galants pour se promener la nuit au lieu de dormir. »« Cependant, cher monsieur d'Aubiac, dit Chicot avec son plus charmant sourire, je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis ambassadeur, et ambassadeur très fatigué d'avoir parlé latin avec la reine et soupé avec le roi, car la reine est une rude latiniste et le roi un rude buveur. Laissez-moi donc sortir, mon ami, car j'ai grand désir de me promener. »« Dans la ville, monsieur Chicot ?»« Oh non, dans les jardins. » « Peste dans les jardins, monsieur Chicot, mais c'est encore plus défendu que dans la ville. »« Mon petit ami, dit Chicot, c'est un compliment à vous faire. Vous êtes d'une vigilance bien grande à votre âge. Vous n'avez donc rien qui vous occupe ?»« Non. Vous n'êtes donc ni joueur ni amoureux ?»« Pour jouer, il faut de l'argent, monsieur Chicot. Pour être amoureux, il faut une maîtresse. »« Assurément, dit Chicot. » Et il fouilla dans sa poche. Le page le regardait faire. « Cherchez bien dans votre mémoire, mon cher ami, lui dit-il, et je parie que vous y trouverez quelques femmes charmantes à qui je vous prie d'acheter force ruban et de donner force violon avec ceci. » Et Chicot glissa dans la main du page 10 pistoles qui n'étaient pas rognées comme celles du Béarnais. Allons donc, monsieur Chicot, dit le page, on voit bien que vous venez de la cour de France. Vous avez des manières auxquelles on ne saurait rien refuser. Sortez donc de votre chambre, mais surtout ne faites point de bruit. Et Chicot ne se le fit point dire deux fois, il glissa comme une ombre dans le corridor et du corridor dans l'escalier. Mais arrivé au bas du péristyle, il trouva un officier du palais dormant sur une chaise. Cet homme fermait la porte par le poids même de son corps. Essayer de passer eût été folie. « Un petit brigand de page, murmura Chicot, tu savais cela et tu ne m'as point prévenu. » Pour comble de malheur, l'officier paraissait avoir le sommeil très léger. Il remuait avec des soubresauts nerveux, tantôt un bras, tantôt une jambe. Une fois même, il étendit le bras comme un homme qui menace de s'éveiller. Chicot chercha autour de lui s'il n'y avait pas une issue quelconque par laquelle, grâce à ses longues jambes et à un poignet solide, il pût s'évader sans passer par la porte. Il aperçut enfin ce qu'il désirait. C'était une de ces fenêtres cintrées qu'on appelle impostes et qui était demeurée ouverte, soit pour laisser pénétrer l'air, soit parce que le roi de Navarre, propriétaire un peu soigneux, n'avait pas jugé à propos d'en renouveler les vitres. Chicot reconnut la muraille avec ses doigts. Il calcula, en tâtonnant, chaque espace compris entre les saillies et s'en servit pour poser le pied comme sur des échelons. Enfin, il se hissa, nos lecteurs connaissent son adresse et sa légèreté, sans faire plus de bruit que n'en eût fait une feuille sèche frôlant la muraille sous le souffle du vent d'automne. Mais l'imposte était d'une convexité disproportionnée, et bien que l'ellipse n'en était pas égale à celle du ventre et des épaules de Chicot, bien que le ventre fût absent et que les épaules, souples comme celles d'un chat, semblassent se démettre et se fondre dans la chair pour occuper moins d'espace, il en résulta que lorsque Chicot eut passé la tête et une épaule et lâché du pied la saillie du mur, il se trouva pendu entre le ciel et la terre, sans pouvoir reculer ni avancer. Il commença alors une série d'efforts dont le premier résultat fut de déchirer son pourpoint et d'entamer sa peau. Ce qui rendait la position plus difficile, c'était l'épée dont la poignée ne voulait point passer, faisant un crampon intérieur qui retenait Chicot collé sur le châssis de l'imposte. Chicot réunit toutes ses forces, toute sa patience, toute son industrie, pour détacher l'agrafe de son baudrier, mais c'était sur cette agrafe justement que pesait sa poitrine. Il lui fallut donc changer de manœuvre, il réussit à couler son bras derrière son dos et à tirer l'épée du fourreau. Une fois l'épée tirée, il fut plus facile de trouver, grâce à ce corps anguleux, un interstice par où se glissa la poignée. L'épée alla donc tomber la première sur la dalle, et Chicot, glissant par l'ouverture comme une anguille, la suivit en amortissant sa chute avec ses deux mains. Toute cette lutte de l'homme contre les mâchoires ferrées de l'imposte ne s'était point exécutée sans bruit. Aussi Chicot, en se relevant, se trouva-t-il face à face avec un soldat. « Ah, mon Dieu, vous seriez-vous fait mal, monsieur Chicot ?» lui demanda celui-ci en lui présentant le bout de sa hallebarde en guise de soutien. Encore, pensa Chicot. Puis, songeant à l'intérêt que lui avait témoigné ce brave homme, « Non, mon ami, lui dit-il, aucun. C'est bien heureux, dit le soldat, je défie qui que ce soit d'accomplir un pareil tour sans se casser la tête. En vérité, il n'y avait que vous pour cela, monsieur Chicot. » « Mais d'où diable sais-tu mon nom ?» demanda Chicot, surpris, en essayant toujours de passer. « Ah, je le sais parce que je vous ai vu au palais aujourd'hui, et j'ai demandé quel est ce gentilhomme de haute mine qui cause avec le roi. « C'est monsieur Chicot, m'a-t-on répondu. Voilà comment je le sais. « Ah, c'est, on ne peut plus galant, dit Chicot, mais comme je suis très pressé, mon ami, tu permettras... « Quoi, monsieur Chicot ?» Que je te quitte et que j'aille à mes affaires. Ah, mais on ne sort pas du palais la nuit, j'ai une consigne. Tu vois bien qu'on en sort, puisque j'en suis sorti, moi. C'est une raison, je le sais bien, mais... Mais vous rentrerez, voilà tout, monsieur Chicot. Ah non, comment non? Pas par là, du moins, la route est trop mauvaise. Si j'étais un officier, au lieu d'être un soldat, je vous demanderais pourquoi vous êtes sorti par là. Mais cela ne me regarde point. Ce qui me regarde, c'est que vous rentriez. Rentrez donc, monsieur Chicot, je vous en prie. » Et le soldat a mis dans sa prière un tel accent de persuasion que cet accent toucha Chicot. En conséquence, Chicot fouilla sa poche et en tira 10 pistoles. « Tu es trop ménager, mon ami, lui dit-il, pour ne pas comprendre que, puisque j'ai mis mes habits dans un état pareil, pour être passé par là, ce serait bien pis si j'y repassais. J'achèverais alors de déchirer mes habits et j'irais tout nu, ce qui serait fort indécent dans une cour où il y a tant de jeunes et jolies femmes, à commencer par la reine. Laisse-moi donc passer pour aller chez le tailleur, mon ami. » Et il lui mit 10 pistoles dans la main. « Passez vite alors, monsieur Chicot, passez vite. » Et il empocha l'argent. Chicot était dans la rue. Il s'orienta. Il avait parcouru la ville pour arriver au palais. C'était la route opposée à suivre, puisqu'il devait sortir par la porte opposée à celle par laquelle il était entré. Voilà tout. La nuit, claire et sans nuages, n'était pas favorable à une évasion. Chicot regrettait ces bonnes nuits brumeuses de France qui, à l'heure qu'il était, faisaient que dans les rues de Paris, on pouvait passer à 4 pas l'un de l'autre sans se voir. En outre, sur le pavé pointu de la ville, ses souliers ferrés résonnaient comme des fers à cheval. Le malencontreux ambassadeur n'eut pas plutôt tourné au coin de la rue qu'il rencontra une patrouille. Il s'arrêta de lui-même en songeant qu'il aurait l'air suspect en essayant de se dissimuler ou de forcer le passage. « Bonsoir, monsieur Chicot, lui dit le chef de la patrouille en le saluant de l'épée. Voulez-vous que nous vous reconduisions au palais, car vous m'avez tout l'air d'être égaré et de chercher votre chemin. « Ah, ça donc, tout le monde me connaît ici, murmura Chicot. Pardieu, voilà qui est étrange. » Puis, tout haut et de l'air le plus dégagé qu'il put prendre, « Non, cornette, vous vous trompez, je ne vais pas au palais. » « Vous avez tort, monsieur Chicot, répondit gravement l'officier. « Et pourquoi cela, monsieur ? Parce qu'un édit très sévère défend aux habitants de Nérac de sortir la nuit, à moins d'urgente nécessité, sans permission et sans lanterne. « Excusez-moi, monsieur, dit Chicot, mais l'édit ne peut me regarder, moi. « Et pourquoi cela ? Je ne suis point de Nérac. « Oui, mais vous êtes à Nérac. Habitant ne veut pas dire qui est d'eux, habitant veut dire qui demeure à. Or, vous ne nierez pas que vous demeuriez à Nérac, puisque je vous rencontre dans les rues de Nérac. « Vous êtes logique, monsieur. Malheureusement, moi, je suis pressé. Faites donc une petite infraction à votre consigne et laissez-moi passer, je vous prie. » Vous allez vous perdre, monsieur Chicot. Nérac est une ville tortueuse. Vous tomberez dans quelque trou puné. Vous avez besoin d'être guidé. Permettez que 3 de mes hommes vous reconduisent au palais. Et je ne vais pas au palais, vous dis-je. Où allez-vous donc, alors? Je ne puis dormir la nuit, et alors je me promène. Nérac est une charmante ville, pleine d'accidents, à ce qu'il me paraît. Je veux la voir, l'étudier. Oh, on vous conduira partout où vous désirez, monsieur Chicot. Oh là, 3 hommes! Je vous en supplie, monsieur, ne m'ôtez pas le pittoresque de ma promenade. J'aime à aller seul. Vous serez assassiné par des voleurs. J'ai mon épée. Ah, c'est vrai, je ne l'avais pas vue. Alors vous serez arrêté par le prévôt comme étant armé. Chicot vit qu'il n'avait pas moyen de s'en tirer par des subtilités. Il prit l'officier à part. « Voyons, monsieur, dit-il, vous êtes jeune et charmant, vous savez ce que c'est que l'amour, un tyran impérieux. »« Sans doute, monsieur Chicot, sans doute. »« Eh bien, l'amour me brûle, cornette, j'ai une certaine dame à visiter. »« Où cela ? Dans un certain quartier. »« Jeune, 23 ans. »« Belle, comme les amours. »« Je vous en fais mon compliment, monsieur Chicot. »« Bien, vous m'allez laisser passer, alors. » « Dame, il y a urgence à ce qu'il paraît. »« Urgence, c'est le mot, monsieur. »« Passez donc. »« Mais seul, n'est-ce pas, vous sentez que je ne puis compromettre. »« Comment donc ? Passez, monsieur Chicot, passez. »« Vous êtes un galant homme, cornette. »« Monsieur, non, ventre de biche, c'est un beau trait, mais voyons, comment me connaissez-vous ? »« Je vous ai vu au palais avec le roi. »« Ce que c'est que les petites villes, pensa Chicot. S'il fallait qu'à Paris je fusse connu comme cela, combien de fois aurais-je eu la peau trouée au lieu du pourpoint? Et il serra la main du jeune officier, qui lui dit « À propos, de quel côté allez-vous »« Du côté de la porte d'Agen. » « Ne vous égarez pas, surtout. » « Ne suis-je pas dans le chemin ?»« Si fait, allez tout droit, et pas de mauvaises rencontres, c'est ce que je vous souhaite. »« Merci !» Et Chicot partit, plus leste et plus joyeux que jamais. Il n'avait pas fait 100 pas qu'il se trouva nez à nez avec le guet. « Mordieu, quelle ville bien gardée !» pensa Chicot. « On ne passe pas !» cria le prévôt d'une voix de tonnerre. « Mais, monsieur, objecta Chicot, je désirerais cependant... »« Ah, monsieur Chicot, c'est vous! Comment allez-vous dans les rues par un temps si froid ?» demanda l'officier magistrat. « Décidément, c'est une gageure, » pensa Chicot, fort inquiet. Et saluant, il fit un mouvement pour continuer son chemin. « Monsieur Chicot, prenez garde, » dit le prévôt. « Garde à quoi, monsieur le magistrat ? Vous vous trompez de route, vous allez du côté des portes. » « Justement. Alors je vous arrêterai, monsieur Chicot. »« Non pas, monsieur le prévôt, peste, vous feriez un beau coup. »« Cependant, approchez, monsieur le prévôt, et que vos soldats n'entendent point ce que nous allons dire. » Le prévôt s'approcha. « J'écoute, » dit-il. « Le roi m'a donné une commission pour le lieutenant de la porte d'Agen. » « Ah !» fit le prévôt d'un air de surprise. « Cela vous étonne ?»« Oui. » « Cela ne devrait pas vous étonner, pourtant, puisque vous me connaissez. »« Je vous connais pour vous avoir vu au palais avec le roi. » Chicot frappa du pied. L'impatience commençait à le gagner. « Cela doit suffire pour vous prouver que j'ai la confiance de sa majesté. »« Sans doute, sans doute. Allez faire la commission du roi, monsieur Chicot, je ne vous arrête plus. » « C'est drôle, mais c'est charmant, » pensa Chicot. « J'accroche en route, mais je roule toujours. » « Ventre de biche, ah, voilà une porte qui doit être celle d'Agen. Dans 5 minutes, je serai dehors. » Il arriva effectivement à cette porte, gardée par une sentinelle qui se promenait de long en large, le mousquet sur l'épaule. « Pardon, mon ami Fichico, voulez-vous ordonner que l'on ouvre cette porte ?»« Je n'ordonne pas, monsieur Chicot, » répondit la sentinelle avec aménité, « attendu que je suis simple soldat. » « Tu me connais, toi aussi ?» s'écria Chicot, exaspéré. « J'ai cet honneur, monsieur Chicot. J'étais ce matin de garde au palais. Je vous ai vu causer avec le roi. « Eh bien, mon ami, puisque tu me connais, apprends une chose. « Laquelle ? C'est que le roi m'a donné un message très pressé pour Agen. Ouvre-moi donc la poterne seulement. « Ah, ce serait avec grand plaisir, monsieur Chicot, mais je n'ai pas les clés, moi. « Et qui les a ?» L'officier de service. » Chicot soupira. « Et où est l'officier de service » demanda-t-il. « Oh, ne vous dérangez point pour cela. » Le soldat tira une sonnette qui alla réveiller dans son poste l'officier endormi. « Qu'y a-t-il ? » demanda ce dernier en passant la tête par la lucarne. « Mon lieutenant, c'est un homme qui veut qu'on lui ouvre la porte pour sortir en pleine. » « Ah, monsieur Chicot !» s'écria l'officier. « Pardon, désolé de vous faire attendre, mais excusez-moi, je suis à vous, je descends. » Chicot se rongeait les ongles avec un commencement de rage. « Mais n'en trouverai-je pas un qui ne me connaisse? C'est donc une lanterne que ce Nérac, et je suis donc la chandelle, moi !» L'officier parut sur la porte. « Excusez, monsieur Chicot, » dit-il en s'avançant en grande hâte, « je dormais. » « Comment donc, monsieur Chicot, mais la nuit est faite pour cela. Seriez-vous assez bon pour me faire ouvrir la porte? Je ne dors pas, moi, malheureusement. Le roi... Vous savez sans doute, vous aussi, que le roi me connaît. Je vous ai vu causer aujourd'hui avec sa majesté au palais. C'est cela, justement, grommela Chicot. Eh bien, soit, si vous m'avez vu causer avec le roi, vous ne m'avez pas entendu causer, au moins. Non, monsieur, je dis ce qui est. « Moi aussi. Or, le roi, causant avec moi, m'a commandé d'aller lui faire cette nuit une commission à Agen. Or, cette porte est celle d'Agen, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur Chicot. »« Elle est fermée, comme vous voyez. »« Veuillez me la faire ouvrir, je vous prie. »« Comment donc, monsieur Chicot ?»« Anténas, Anténas, ouvrez la porte à monsieur Chicot. Vite, vite, vite !» Chico ouvrit de grands yeux et respira comme un plongeur qui sort de l'eau après 5 minutes d'immersion. La porte grinça sur ses gonds, porte du paradis pour le pauvre Chico qui entrevoyait derrière cette porte toutes les délices de la liberté. Il salua cordialement l'officier et marcha vers la voûte. « Adieu, dit-il, merci. Adieu, monsieur Chico, bon voyage. » Et Chico fit encore un pas vers la porte. « À propos, étourdi que je suis, cria l'officier en courant après Chico et en le retenant par sa manche, j'oubliais, cher monsieur Chico, de vous demander votre passe. Comment, ma passe ? Mais certainement, vous êtes un homme de guerre, monsieur Chico, et vous savez ce que c'est qu'une passe, n'est-ce pas ? On ne sort pas, vous comprenez bien, d'une ville comme Nérac sans passe du roi, surtout lorsque le roi l'habite. Et de qui doit être signée cette passe ? Du roi lui-même. Ainsi, puisque c'est le roi qui vous envoie en plaine, il n'aura pas oublié de vous donner une passe. Ah, doutez-vous donc que ce soit le roi qui m'envoie, dit Chico, l'œil en feu, car il se voyait sur le point d'échouer, et la colère lui suggérait cette mauvaise pensée de tuer l'officier, le concierge, et de fuir par la porte ouverte, au risque d'être poursuivi dans sa fuite par 100 coups d'arquebuse. « Je ne doute de rien, monsieur Chico, surtout de ces choses que vous me faites l'honneur de me dire, mais réfléchissez que si le roi vous a donné cette commission... »« En personne, monsieur, en personne. Raison de plus, sa majesté sait donc que vous allez sortir. »« Mais ventre de biche, s'écria Chico, je le crois bien qu'elle le sait. »« J'aurai donc une carte de sortie à remettre demain matin à monsieur le gouverneur de la place. » Et le gouverneur de la place demanda Chico, c'est ce monsieur de Mornay qui ne badine pas avec les consignes, monsieur Chico. Vous devez savoir cela, ce qui me ferait passer par les armes purement et simplement si je manquais à la mienne. Chico commençait à caresser la poignée de son épée avec un mauvais sourire, lorsque, se retournant, il s'aperçut que la porte était obstruée par une ronde extérieure, laquelle se trouvait là justement pour empêcher Chico de passer, eût-il tué le lieutenant, la sentinelle et le concierge. Alors se dit Chico, avec un soupir, « C'est bien joué, je suis un sot, j'ai perdu. » Et il tourna les talons. « Voulez-vous qu'on vous reconduise, monsieur Chico ?» demanda l'officier. « Non, ce n'est point la peine, merci, » répliqua Chico. Chico revint sur ses pas, mais il n'était point au bout de son martyre. Il rencontra le prévôt qui lui dit « Ah tiens, monsieur Chico, vous avez donc déjà fait votre commission ? Peste, cette affaire à vous, vous êtes leste !» Plus loin, le cornette le saisit au coin de la rue et lui cria « Bonsoir, monsieur Chico. Eh bien, cette dame, vous savez, êtes-vous content de Nérac, monsieur Chico ?» Enfin, le soldat du péristyle, toujours en sentinelle à la même place, lui lâcha sa dernière bordée. « Cordieu, monsieur Chico, lui dit-il, le tailleur vous a bien mal raccommodé, et vous êtes, Dieu me pardonne, plus déchiré encore qu'en sortant. » Chico ne voulut pas risquer de se dépouiller comme un lièvre en repassant par la filière de l'imposte. Il se coucha devant la porte et feignit de s'endormir. Par hasard, ou plutôt par charité, la porte s'ouvrit et Chico resta penaud et humilié dans le palais. Sa mine effarée toucha le page, toujours à son poste. « Ah, cher monsieur Chico, lui dit-il, voulez-vous que je vous donne la clé de tout cela ?»« Donne, serpent, donne, » murmura Chico. « Eh bien, le roi qui vous aime tant a tenu à vous garder. Et tu le savais, Brigando, et tu ne m'as pas averti. Oh, monsieur Chico, impossible, c'était un secret d'État. Je t'ai payé, scélérat. Oh, le secret valait mieux que 10 pistoles, vous en conviendrez, monsieur Chico. » Chico rentra dans sa chambre et se rendormit de rage.